I found a confusing and unusual arrangement for making U.S. policy toward Ukraine. There appeared to be two channels of U.S. policymaking and implementation, one regular and one highly irregular.
C'était Bill Taylor, l'ancien ambassadeur américain en Ukraine, qui témoignait aujourd'hui au début des audiences publiques sur l'enquête d'impeachment. Et il a dit, Raphaël, que quand il était là-bas, hein, il trouvait que c'était confus et inhabituel la façon dont la politique américaine en Ukraine était menée par l'administration Trump. Et il a dit il y avait deux canaux, dans le fond. Un canal officiel et un canal pas officiel. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Bien, il voulait dire qu'il y a une façon de faire traditionnelle, normale, habituelle.
Ton ambassadeur, tes diplomates, eux vont traiter avec les pays étrangers.
Exact. Les gens qui sont payés par l'État pour faire ça.
Oui.
Et il y avait, selon lui, sous l'administration Trump, un deuxième canal qui, lui, était beaucoup moins officiel, beaucoup plus inhabituel et, selon lui aussi, beaucoup plus inquiétant, dans lequel la politique étrangère américaine à l'endroit de l'Ukraine n'était pas menée par les fonctionnaires et les gens payés par l'État pour le faire, mais par des acolytes personnel de Donald Trump, à commencer par son avocat Rudy oui. Giuliani, dont le nom a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense que c'est bon de commencer, là, on se parle des audiences publiques, la première journée d'audience publique, en faisant le point sur qui on a entendu. Parce que les démocrates qui contrôlent le processus d'enquête n'ont pas choisi n'importe qui pour commencer cette espèce de marathon-là qui va s'échelonner sur plusieurs jours, voire quelques semaines. Ils ont commencé avec deux diplomates de formation. Le type qu'on vient d'entendre, M. Taylor, c'est non seulement un diplomate qui est en poste depuis des décennies, mais c'est un ancien combattant. On se parlait il y a deux jours du jour du souvenir là, aux États-Unis. C'est un type qui a vu le Vietnam, qui a vu le combat au Vietnam et qui a été décoré suite à sa participation à la guerre du Vietnam et qui a servi sous les présidents des deux partis. Mmh. C'est assez difficile de remettre l'intégrité et même, jusqu'à un certain point, l'impartialité de ce type-là. Donc, il y avait lui, il y avait un chargé d'enquête, un chargé d'affaires en Ukraine, George Ken, qui était avec lui aussi aujourd'hui.
Mais Raphaël, c'est difficile, mais je veux dire, les républicains modernes de la gang à Trump sont pas au-dessus de salir des gens qui ont servi sous des drapeaux.
Et ils ont essayé. Et ils ont essayé de façon très agressive. Dès les premières minutes ce matin, le républicain numéro 1 du comité est vraiment sorti avec les gros canons en essayant carrément de salir ces types-là, à commencer par M. Taylor. Je te dirais que cette ligne d'argumentation du côté républicain a clairement été moins fructueuse parce qu'encore une fois, pour la personne moindrement objective et raisonnable, qui non seulement qui voit le background de ces gens-là, mais qui les écoute parler. Là, pour avoir regardé la quasi-totalité des témoignages d'aujourd'hui, ça ne ressemble pas à des partisans avec le couteau entre les dents anti-Trump. Au contraire, et non seulement ça, mais ce qu'ils disent, en fait, c'est tout simplement confirmer de un ce qu'ils avaient déjà dit en privé, ce qu'ils avaient déjà témoigné sous serment en privé, et c'est surtout ce que plusieurs maintenant disent, incluant des gens au sein du cabinet Trump. C'est-à-dire que l'histoire, justement, des deux canaux d'élaboration de politique étrangère à l'endroit de l'Ukraine, c'est pas juste M. Taylor puis M. Ken qui disent ça. Là. Ça semble être un consensus qui est assez établi. Et l'histoire, la fameuse histoire de la tentative d'avoir un retour d'ascenseur que Donald Trump retienne de l'aide financière et de l'aide diplomatique qui était destinée à l'Ukraine en retour de l'obtention d'un engagement public et clair de la part du président ukrainien qui allait enquêter sur Joe Biden et son fils. Ça aussi, ça commence à être établi assez clairement.
Puis tu sais, pour situer les gens, Raphaël, là, qu'un président des États-Unis dise aux dirigeants d'un autre pays, écoutez, on va vous aider, mais on voudrait, par exemple, que, je sais pas moi, vous nous laissiez avoir une base militaire chez vous. On voudrait que votre économie soit plus ouverte. Des affaires comme ça. C'est une chose, OK? Mais de dire, on va vous aider, on va vous donner de l'aide militaire, vous, les Ukrainiens, là, je pense que c'était 450 millions, là, parce qu'ils ont des problèmes avec les Russes. Mais vous allez enquêter sur le gars qui va peut-être se présenter contre moi à la présidence. Ça, c'est une ligne rouge qui te fait tomber dans quasiment l'intention criminelle.
Bien, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a une enquête sur l'impeachment, sur la destitution. Lorsqu'on parle de destitution, c'est qu'il y a potentiellement le viol de loi qui a été commis. Et lorsque tu évoques ça, évidemment, l'expression « abus de pouvoir » vient sur les lèvres de bien des gens parce que, encore une fois, c'est le président qui utilise ou qui utiliserait le pouvoir du gouvernement américain à ses fins politiques personnelles. C'est pour ça que c'est aussi sérieux que ça.
Et est-ce que c'est de ce qu'on connaît de Donald Trump depuis qu'il est en politique, de ce qu'on connaît de Donald Trump, de ses pratiques d'avant, est-ce que c'est hautement inhabituel? Ben, la réponse, Je laisse la dire.
J'ai vraiment besoin de te répondre.
Je pense que c'est non.
Donc?
Donc, écoute, dans un monde normal, il serait impeaché. Mais je veux dire, les Républicains sont tellement rendus hyper partisans. Moi, je vois pas comment au Sénat, ça va pouvoir passer la barre.
Et sais-tu ce qui est intéressant? C'est qu'on a vu ça aujourd'hui. Le comportement des Républicains, des membres Républicains, ils se sont tenus en bloc, en bloc. Il n'y a rien qui a bougé. Tu n'avais pas affaire là, à un exercice bipartisan comme on avait sous Richard Nixon, où les démocrates et les Républicains avaient travaillé ensemble pour enquêter. Tu avais les démocrates qui étaient là pour épingler Trump et les Républicains qui étaient là pour, en totalité, le défendre.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'une des beautés du système américain, c'est à travers les âges. Là, okay, là, c'est pas un système qui est parfait, mais la discipline de parti, comme on la connaît au Canada dans le système parlementaire, au Québec, au fédéral, etc., c'est pas aussi présent.
Rigide.
Tu le dis, quand Nixon a fait face à l'impeachment, ben, il y a des Républicains qui votaient contre lui. Pas tous, mais il y en a qui votaient contre lui. Aujourd'hui, t'es rendu dans une sorte de... aux États-Unis, surtout chez les Républicains, il y a comme une forme d'inspiration, de parlementarisme.
Absolument.
Ils se sentent liés par une discipline de parti. Ça n'existe pas dans ce pays-là, généralement. C'est ça que je trouve étonnant.
C'est pas un système qui est conçu pour ça.
Non.
Donc, écoute, on va pouvoir s'en reparler parce qu'il y a d'autres témoignages qui sont attendus vendredi, mais clairement un exercice très partisan qu'on a eu aujourd'hui.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob. On te retrouve demain. Dans quelques minutes, la police d'Ottawa a saisi des centaines d'armes à Ottawa chez un citoyen. On va vous raconter les dessous de cette histoire-là. Luc Ferrandez et Pierre-Yves McSween s'en viennent après les nouvelles.